Porto Cambu. Porto Cambu.
Jumelé avec le Portugal.
Oui. Parce qu'il y en a, hein. Hein?
Bah ouais, il y a une association.
Bah, ou sinon, je demande à Cyril de s'arrêter si tu veux.
Bah, non. Bah, ouais, ça va.
Il est en voiture, tout
ça va lui casser les pieds.
Bah, non, pas bon, c'est les pieds.
Mais il faudra le repayer, Mylène.
Comment?
Il faudra le repayer, Mylène.
Bah, oui, ça, je sais. C'est ce que je voulais offrir.
Parce que je les connais, regarde déjà l'artiste.
Non, c'est ce que je voulais offrir comme ça.
Alors, je pense que c'est en route, hein. Ah, ça.
Ça fonctionne?
Je pense que ça fonctionne. Chers amis, si vous êtes là, envoyez un petit cœur, une petite main bleue ou... voilà, quelque chose, un petit signe, voilà. En général, comme ils savent que je suis jamais à l'heure, et puis que ça fait deux fois que je rate. Hein. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable, ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le Tout-Puissant, le Prince de la Paix, l'Étoile du Matin, le Bon Berger. Tu es le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, ton nom surpasse tout autre nom. Donc, chers amis, je demande à Dieu, notre Père, de vous bénir, notre Dieu des cieux, qui vous a créé et qui un jour vous demandera des comptes de votre vie. Je demande à notre Dieu de vous bénir, de faire du bien dans votre vie, d'éclairer votre âme, votre esprit. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve, car il est proche de vous. Cherchez-le. Lisez son évangile. Et bonjour Stéphane. Que Dieu te bénisse. Nous allons commencer. Voilà, j'ai choisi le cas d'un homme entêté. Très entêté. Qui ne veut pas faire ce que Dieu lui demande. Jonas. Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc c'est une grande ville de plus de 120 000 habitants, et très riche, très puissante, et qui est en pleine Assyrie, sur l'Euphrate, et qui dirige toute la région du Moyen-Orient. Toute la région, c'est un peuple redoutable qui fait la guerre, qui pille, qui opprime et qui fait beaucoup d'esclaves. Et donc, voilà que Dieu demande à Jonas, un petit juif, qui n'a pas peut-être de diplôme, qui n'a peut-être que un petit savoir-faire, d'aller parler à la ville de Ninive pour qu'elle change d'attitude, qu'elle se repente. Écoutez, c'est quand même pas facile. Un boulot pareil. Donc Jonas, il refuse. Jonas se leva pour s'enfuir, à Tarsis, donc Tarragone en Espagne, loin de la face de l'Éternel, donc contre son avis. Il descendit à Jaffa, donc c'est Jaffa, l'île Jaffa actuelle, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc, c'est pas un paquebot, c'est pas un bateau super moderne, mais c'est des bateaux bien organisés, c'est l'Empire phénicien du Liban, dont les deux capitales sont Tyr et Sidon, qui organisait, qui avait la maîtrise de la mer sur la Méditerranée, qui avait énormément de bateaux, qui contrôlait toute la navigation, tout le commerce, et qui était armé, des bateaux armés. Et donc, le Liban, donc la Phénicie, avait des cités tout le long de la Méditerranée, un peu partout, même en France, sur la Méditerranée, en Italie, partout, des stations avec des forteresses pour pouvoir échanger, faire du commerce avec les populations et aussi acheter des esclaves ou les prendre de force. Alors, l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers, donc les matelots, eurent peur. Ils implorèrent chacun leur dieu. Donc il y a des gens de toutes les religions, et surtout ce sont des gens de Tyr et Sidon, de Phénicie. Ils adorent des dieux auxquels on fait même des sacrifices humains. Ils implorèrent chacun leur dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Vous voyez à quel point il s'en fiche de tout. Il s'oppose. Il nie le problème. Le pilote du bateau s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi et parle à ton Dieu. Prie-le. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Donc, pendant que le commandant du bateau va en bas, les matelots au-dessus jouent un jeu de sort avec des dés, etc. Et ils se rendent compte que ça tombe sur Jonas, qui est au fond là-bas, et du bateau. Ils lui dirent « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu ?» Il répondit « Je suis hébreu, donc juif, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent « Pourquoi tu fais cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déjà déclaré. Ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Chers amis, première réflexion, c'est que ce sont des incroyants qui ont des divinités, des statues, qui ne connaissent rien à la Bible, à la Torah, à l'histoire religieuse d'Israël, mais ils savent tout de même que Dieu d'Israël, dans le passé, a eu grande autorité, a fait des miracles. Et ils en ont peur, même s'ils n'aiment pas, même s'ils n'y croient pas, ils gardent leur religion, leur divinité, leur rite. Ils savent très bien que c'est une religion très importante qui a autorité. Et ils la craignent. Et ils veulent survivre. Ils demandent à cet homme « Que ferons-nous pour que la mer se calme ? Que te ferons-nous » Ils ne sont pas méchants. Ils auraient pu dire tout de suite « On te jette à la mer et puis c'est réglé. » Non. Ils donnent une chance à cet homme de donner une solution. Ils sont assez positifs. Je trouve que à cet égard, ces hommes offre une grâce à Jonas. Et la grâce que Dieu offre par ses hommes, c'est que Jonas va pouvoir parler et s'avouer la faute des malheurs de ce bateau. Et il va pouvoir avouer son obstination, son refus d'obéir à Dieu. Déjà, donc, Dieu, dans sa grâce, a permis que Jonas puisse confesser son péché. C'est très important. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Merci pour les petits cœurs. Donc, je suis dans Jonas, le chapitre 1, le livre de Jonas dans la Bible, chapitre 1, verset 13. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus encore contre eux. Ils invoquèrent l'Éternel, donc ils vont, ces gens qui ne croient pas en Dieu, le Dieu de Moïse, d'Abraham, ils vont prier ce Dieu-là, qu'ils ne connaissent pas. Ils vont s'adresser au Dieu vivant qui a créé les cieux et la terre. Le seul Dieu, d'ailleurs. Ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne cherche pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Donc, ne cherche pas du sang innocent. Nous ne voulons pas tuer cet homme. Nous ne voulons pas le massacrer. Nous te craignons, Dieu, grand Dieu, du ciel et de la terre, Dieu d'Israël. Et nous ne voulons pas nous charger de cette ignoble tâche de tuer cet homme parce qu'il t'a désobéi. Donc, et ils disent en même temps, l'Éternel ne nous fait pas périr. On voit que ces hommes-là ont quand même quelque chose de formidable en eux. Ils ne veulent pas massacrer cet homme qui est la source de leur malheur. C'est une grande grâce quand un ennemi vous hait et ne vous fait pas du mal. C'est une grande grâce quand vous voyez que Dieu a travaillé le cœur de celui qui est méchant en face de vous et qu'il s'arrête et ne fait pas du mal. C'est une grande grâce. Moi, je l'ai vu souvent avec des personnes qui voulaient vraiment me faire un grand mal. Et il faut savoir que la grâce de Dieu, le cadeau de Dieu, est souvent intervenu dans notre vie. Il faut reconnaître tout ce que Dieu a fait. Il faut s'analyser. Combien de fois on pourrait dire « j'aurais dû mourir dans tel accident, dans telle folie, dans telle bêtise, dans telle bagarre, dans telle situation ?» Combien de fois j'aurais dû mourir ? Et je ne suis pas mort, je suis encore là. Parce que Dieu a fait grâce. C'est le Dieu de la vie. Il ne veut pas notre mort. Retenez-le bien, mes amis, c'est très important. Et il faut savoir dire merci tous les jours, en se levant et en s'endormant, à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Votre vie est-elle triste? Votre vie n'est-elle pas bonne? Comme ces matelots qui vivent dans la mer, qui subissent des tempêtes, ce n'est pas grave. Rendez grâce et Dieu changera le cours de votre vie. Dieu interviendra pour le changer, tôt ou tard. Mais rendez grâce. En toutes circonstances, dites merci à Dieu. Si vous ne dites pas merci à Dieu, et si vous n'apprenez pas à vous tourner vers lui, vous amplifiez la détresse et les problèmes de votre vie. Vous êtes dans le naufrage tous les jours. Alors, bonjour Larissa. Bonjour papy. Alors, il faut bien savoir ceci. Toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. La décision dépend de Dieu, pas de nous. En toutes circonstances. Et ça, il faut faire très attention. Jésus a appris à tous ses disciples que ta volonté soit faite. Notre Père, qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il est clair que c'est la base de la prière, que ta volonté soit faite. Souvent, chers amis, il y a des gens, ils font un pèlerinage, ils mettent des bougies, mais ils vont devant une statue, des fleurs, etc. Ils font des neuvaines, ils font des carêmes, etc. Tout ce que vous voulez. Ou ils récitent des chapelets. Mais pourquoi, Seigneur, pour que tu fasses ce que je te demande. Seigneur, mon Dieu, je te prie pour que tu fasses ma volonté. C'est pas ça, la base de la prière, la vraie prière. Non, Seigneur, que ta volonté soit faite. Puis ils prirent Jonas, le jetèrent dans la mer, à contre-cœur évidemment, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Bon, voilà une histoire, le premier chapitre de Jonas. Si je prends le psaume 107, allez voir qu'il y a un parallèle formidable. Deux siècles avant, Moïse écrit un psaume sur un récit de tempête dans la mer. Psaume 107. Comme quoi, dans la Bible, il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas des coïncidences. Tout est orchestré. Plus on la lit, plus on la comprend, plus on cherche, plus on se rend compte que tout se tient ensemble. Alors, regardez bien. Psaume 107, je ne peux pas tout lire, c'est long. Verset 11. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut, pensez à Jonas, évidemment, 2 siècles plus tard, il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer, comme d'une prison. Notre vie souvent est une prison. Pour beaucoup de personnes, c'est une prison la vie. Eh bien, Dieu a rompu les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur péché volontaire, s'étaient rendus malheureux. Retenez bien ces versets, chers amis. C'est souvent comme ça que les misères nous sont arrivées. Leur âme avait en horreur toute nourriture et touchait aux portes de la mort. Anorexie, n'est-ce pas? Ah oui, on ne veut plus manger. Choix de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse, donc de la mort, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. L'invitation, chers amis, c'est de toujours dire merci. De dire merci avec joie. D'être joyeux en disant merci à Dieu. Et pas en tirant la tête et parce qu'il faut bien. Parce que c'est notre vrai papa. C'est le seul vrai papa des humains. Et voici un exemple flagrant qui rejoint celui de Jonas et des matelots phéniciens. Ceux qui étaient descendus, verset 23, sur la mer dans les navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, donc la mer Méditerranée, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Donc la barque avec les hommes dégringole, remonte, dégringole, à ne plus en finir, jusqu'au jour où elle coule. À l'heure où elle va couler, ils sont dans la détresse. Leur âme était éperdue en face du danger. Pourtant, c'est des techniciens, des professionnels de la mer. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes, donc les vagues, se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple, qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Nous voyons ici qu'il est clairement, nous sommes invités à nous réunir avec les croyants, avec les chrétiens, pour louer Dieu et le remercier. Hein? Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple, qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Et fondamentalement, il y a l'action de grâce, le merci qu'on dit dans son cœur, dans sa maison, sur le chemin, au travail, et puis il y a le merci qu'on dit ensemble dans l'assemblée. Et il faut les deux. Il faut les deux. Dieu demande les deux. Vous le voyez? Mais vous avez vu la catastrophe qui pendait au nez de ces personnes? Elles étaient en train de mourir, et dans le psaume 107, on voit que Dieu les délivre. Pensez, chers amis, que les disciples de Jésus ont été dans le même cas dans la tempête. Et Jésus est venu, alors qu'il était dans la montagne en train de prier, il est venu les délivrer. Il les a rejoints pendant la nuit à 4,5 km, 5 km sur la mer de Tibériade, pour le prier, pour, et prier dans la montagne. Il est venu tout près d'eux et la mer s'est arrêtée. Donc, celui qui arrête la tempête dans nos vies, c'est le Christ. Jésus a dit dans Matthieu 28, 18 à 20, « Allez, faites des disciples de toutes les nations, enseignez-leur à observer tout ce que j'ai prescrit. » Donc, appel à l'obéissance à Jésus. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? « J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Quelles que soient nos angoisses, quelles que soient nos tempêtes, adressons-nous au Seigneur Jésus. Confions-nous en lui, disons-lui notre foi. Et la vie changera. Vous avez d'autres psaumes qui parlent de la même façon, même dans Isaïe. Je ne peux pas les chercher aujourd'hui, c'est un sujet trop vaste. Mais clairement, la puissance de Dieu s'est réalisée qu'à la demande des Phéniciens, des matelots phéniciens, la tempête s'est arrêtée. À la demande des païens. C'est incroyable. Ça veut dire quelque chose. Nous allons y venir. Alors, vous voyez au verset 16, Jonas chapitre 1, verset 16, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Donc, ils ont un immense respect pour le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, le Dieu pourtant, peut-être qu'ils n'ont pas appris à connaître vraiment, mais sur le moment, dans le tourment, l'Esprit de Dieu, qui est vivant, qui est tout-puissant, leur a révélé la nature du vrai et grand seul Dieu. Donc la révélation de Dieu peut se faire à des païens, à des gens qui ont des idoles. La révélation de Dieu peut se faire puissamment, puissamment. Donc c'est la grâce de Dieu. Dieu a une infinie miséricorde pour tous les peuples. Tous les peuples. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Donc il va être englouti dans une baleine ou dans un cachalot. Et donc il va bien sûr finir mal. Les eaux, verset 6, chapitre 2, verset 6, m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, tu m'as fait remonter vivant de la fosse, éternel mon Dieu. Je pense qu'il y a eu mort et résurrection. Dans l'Ancien Testament, vous voyez déjà des résurrections avec Élie et Élisée. Il peut y avoir résurrection, tout à fait, pour Jonas. C'est l'œuvre de Dieu, c'est le Dieu de la résurrection. Lisez chapitre 11 de Hébreux, vous verrez qu'Abraham croyait dans le Dieu de la résurrection. Donc, nous voyons ici une manifestation puissante de la force de vie qui est en Dieu. La force de vie. Cet homme va tomber dans l'eau et va en sortir de nouveau vivant. Verset 11. Verset 11, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Donc, délivré de la catastrophe. Délivré de la mort. Est-ce que quand Jésus a prié devant le tombeau de Lazare, Lazare n'a pas été délivré de la catastrophe de la mort? Est-ce que quand Jésus a prié pour la petite fille du prêtre de Jaïrus, ce pauvre homme qui dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Jésus va voir la petite fille, et puis il lui dit, Talita Kumi, lève-toi petite fille. Et il la rendit à son père, à ses parents, et il dit aux parents de lui donner à manger. Donc, vous voyez à quel point Jésus est le maître de la vie. Jésus l'a dit, je suis la résurrection et la vie. Le Dieu de l'évangile est le Dieu de la vie. Pas le Dieu de Satan et de la mort. Prenons le chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu, pas à Jonas. Vous voyez, de la même façon que les Libanais, les Phéniciens ont cru à l'existence du grand Dieu, hein, dans le chapitre 1 et 2, vous voyez, chapitre 1, vous voyez là que les Ninivites acceptent que Dieu leur parle. Alors qu'ils ont des divinités, ils font des sacrifices humains, ils font des guerres, ils font de tout, on pourrait dire, mais non, ils vont jamais se convertir, c'est pas possible. Eh bien, les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac, s'assit sur la sente. Il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point, ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sang, qu'ils crient à Dieu avec force, qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et de sa décision et ne se repentira pas, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, il ne le fit pas. Effectivement, toute cette génération, environ 60 ans, n'a pas vu la dévastation de Ninive qui après est arrivée avec Nebuchadnezzar de Babylone. Mais clairement, ce bonhomme Jonas, qui va faire un boulot qu'il n'aime pas, il va parler à des ennemis qu'il n'aime pas, il va dire quelque chose et c'est cinglant. C'est cinglant. Dans 40 jours, c'est terminé. La ville est détruite. Effectivement, historiquement, on a vu dans l'histoire que les rois de Babylone étaient partis avec ses armées. Il est déjà à mi-chemin entre Babylone et Ninive pour la raser, la prendre. Et les trois fils du roi de Babylone s'insurgent, prennent la capitale en main et font un coup d'État. Le roi doit retourner pour massacrer ses trois fils et reprendre le pouvoir. Ce qui fait qu'il n'est jamais parti vers Ninive après. Il est mort avant de pouvoir y retourner. Donc, on voit bien que Dieu a eu autorité en laissant la pagaille à Babylone, en laissant ce roi de Babylone changer d'avis, en le faisant changer d'avis, et l'empêchant de revenir. Et pratiquement, cette ville, suite à sa repentance, est restée encore existante 50 à 60 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu n'aurait pas un plan de salut pour les gens du Liban, de la Phénicie, et pour les gens de l'Assyrie? La Syrie n'existe plus aujourd'hui, elle a été divisée en deux par les Européens, Irak, Syrie. Mais autrement, c'était Assyrie. A-2-S-Y-R-I-E. Eh bien, oui, il y a un plan de Dieu. Il y a un plan de Dieu qui a été révélé. Donc, comme je vous ai lu tout à l'heure un psaume 87 à propos de la tempête, prenons maintenant le psaume 80. Je vous ai lu le psaume 107. Prenons le psaume 87. Que dit le psaume 87? Il est court, il est bref, mais il est riche, riche de promesses éternelles. Formidable. C'est un décret de Dieu qui est manifesté par le Saint-Esprit à David et que David met par écrit. Vous savez, David était loin de comprendre tout ça. Mais à l'époque de Jonas, Jonas connaissait le psaume 87 et d'autres textes. Psaume 87. Elle est fondée, donc Sion, Jérusalem, sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Tous les villages sont des petites villes d'Israël. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr, avec l'Éthiopie. Les Philistins, c'est les Palestiniens d'aujourd'hui. Parce que les Philistins, quand Titus a rasé en l'an 70, en 70, Jérusalem, il n'a plus voulu entendre parler d'Israël et il a dit ça sera Palestina, ça ne sera plus Israël. Palestina a donné le nom Palestine. Et donc, qui existe toujours. Mais les Philistins, leur nom a été transformé par Titus en Palestinien, Palestina, Palestinien. Deuxième chose, voici le pays des Philistins, donc des Palestiniens. Tyr, c'est les Phéniciens, c'est les matelots qui dirigeaient le bateau où était Jonas. Tyr, avec sa grande civilisation, ses sacrifices humains, etc., ses faux dieux et tout ça, ses injustices, avec l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est quoi? À cette époque-là, il y a des rois en Égypte, il y a des pharaons plutôt, noirs. C'est des pharaons qui viennent de Nubie. La dynastie des pharaons, la dynastie était noire. Et le Soudan actuel, l'Éthiopie actuelle, l'Érythrée, Somalie, tout cela avec l'Égypte faisait qu'un seul pays. Et l'Éthiopie conduisait la barque. En fin de compte, les pharaons se sont installés. Les noirs ont quitté la Nubie. Il y a beaucoup de pyramides en Nubie, il y a beaucoup de temples encore maintenant. On peut trouver beaucoup de choses qui le prouvent. Et ils sont venus s'installer dans, plus au nord, le long du Nil, dans des régions plus riches, et là où étaient avant les pharaons blancs ou bronzés, si vous voulez. Et ce qui s'est passé, on voit qu'ici il y a une promesse, c'est que ces gens d'Éthiopie et d'Égypte sont appelés, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il a dit, tous ils sont nés, c'est très haut qu'il a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Ceux qui chantent et ceux qui dansent écrivent, toutes mes sources sont en toi. Ils sont quand même nés du ventre de leur mère en Éthiopie, au Liban, en Assyrie. Comment ça se fait qu'on dit dans ce psaume qu'ils sont nés? Eh bien, ils sont nés selon Dieu, par le Saint-Esprit, régénérés en Christ, en Jésus, selon l'Évangile. C'est la promesse, c'est le décret de Dieu. Et donc, il y a un plan de Dieu sur ces régions. Nous allons aller dans Isaïe, au chapitre 18. La promesse de Dieu est grande et Jonas voulait aller contre. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est un décret. C'est une volonté ferme de Dieu. Et il l'a confié à ses prophètes. Il l'a fait mettre par écrit. Donc c'est indiscutable. Vous vous rendez compte qu'en l'an 180, 200, Origène, qu'on dit père de l'Église, a décidé et a dit, dans toute la chrétienté du Méditerranée, que les prophéties n'avaient pas de contenu historique. C'était allégorique, c'était des images. Et c'est une des bases de la doctrine catholique. Les prophéties de l'Ancien Testament n'ont pas de contenu historique, c'est des images. Eh bien, figurez-vous qu'on peut balayer les deux tiers de la Bible, hein, si on écoute Origène. Et pourtant, beaucoup de gens ont accepté cette doctrine d'Origène. Elle est toujours en œuvre dans les grandes églises orthodoxes, catholiques, et même dans beaucoup d'églises protestantes. C'est quand même une grande offense à Dieu. Ésaïe 18, verset 7. « En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées, donc des anges, par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante qui écrase tout, dont le pays est coupé par des fleuves. » Donc c'est la Syrie, Tigre, Euphrate et tous les affluents. C'est la Syrie. La Syrie, c'est aujourd'hui la Syrie et l'Irak. Donc pensez bien qu'un jour, à Jérusalem, la Syrie et l'Irak adoreront le Seigneur Jésus. Tout comme les Phéniciens, les Libanais, etc. Voilà. Ils iront là où le Seigneur Jésus sera sur son trône, à Sion. Chapitre 19. Chapitre 19. Verset 21 de Isaïe. L'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira. Ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens et les Assyriens serviront l'Éternel. Donc il s'agit de Ninive et tous les autres, auquel Dieu a envoyé Jonas. Vous voyez bien que Jonas, quand il a envoyé, il y avait déjà des prophéties qu'il avait certifiées à tous les Juifs. Donc Jonas savait très bien que ces peuples se convertiraient tôt ou tard. La conversion de Ninive, donc, de 120 000 habitants, n'est que la préfiguration de la conversion de tous ces peuples du Moyen-Orient. C'est un signe avant-coureur, si vous voulez. C'est une promesse formelle et certaine. Et pour preuve, dans ce texte, pour que Dieu démontre qu'il a raison, qu'il le fera, Il dit qu'il y aura un monument, un autel, un monument à l'Éternel, verset 19. Chapitre 19, verset 19, sur la frontière de l'Éthiopie et de l'Égypte. Effectivement, il y a eu, du temps des Mèdes et des Perses, au 4e et 3e siècle, il y a eu des garnisons, 4e et 5e siècle, des garnisons juives, des soldats juifs, à la solde du roi des Mèdes et des Perses, donc de l'Iran, de Persépolis, de Suse, pour contrôler la frontière. Et sur une de ces îles, une de ces cinq îles, il y a un temple qui est une copie du temple de Salomon sur l'île d'Éléphantine, que les touristes peuvent aller voir. C'est un signe de l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ésaïe 19, versets 19 et 20. Donc, quand Dieu parle et qu'il donne des prophéties, nous ne sommes pas dans l'allégorie et dans les images, comme l'a dit Origène. Et comme peuvent le dire certains dirigeants, certains théologiens, certains chefs chrétiens, les prophéties ont une grande importance, parce qu'elles montrent l'autorité de Dieu sur l'histoire. Eh bien, Jonas, quand il va prêcher, tout le monde va se convertir. Pourquoi est-ce que Jonas s'oppose, s'est opposé? Pourquoi il est si dur? Qui va faire son boulot à contre-cœur? Pourquoi? Eh bien, chapitre 4, cela déplut fort à Jonas, il fut irrité, il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis. Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort me préférera pas la vie. » Donc, il savait que Dieu est compatissant et miséricordieux à l'égard des Ninivites, des Assyriens, et lui n'en voulait pas. Bon, maintenant, je vous pose la question, chers amis. Vous, avez-vous envie de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal? Ou êtes-vous comme Jonas? Avez-vous envie de parler de Jésus-Christ et du pardon que Jésus-Christ donne à ceux qui ne vous aiment pas? Faites-le, même si vous êtes un Jonas. Et puis changez. Une Jonas, avec deux S-E. Hein? Mais Dieu est un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en beauté. Et il ne faut pas croire que Dieu veut enfoncer les hommes. C'est les hommes qui enfoncent les hommes. Mes amis, il ne faut pas s'y méprendre. L'homme a le cœur mauvais. Mais pas Dieu, notre Dieu des cieux. Dieu est amour, et il veut le salut des hommes. Il a donné Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous sommes donc aujourd'hui, quel jour? Mercredi?
Mercredi.
Donc, oui. Mercredi, ici, Pont-au-Combo, tout près de Paris. Et ensuite, vendredi, à Meslan, tout près de Blois, dans la vallée de la Loire, en France encore. Et puis lundi aussi, à Meslan, tout près de Blois. Et après, eh bien après, on verra. Probablement lundi, mercredi aussi. Et à bientôt, que Dieu vous bénisse. Et pardon pour les deux fois où j'étais absent. Je ne pouvais pas, je n'avais pas la Wi-Fi, je ne pouvais pas faire le message. C'est pas que je ne voulais pas. Que Dieu vous bénisse.